Sokɛ ka ɲi siri bɔlɔ la kaya la
musow ka fo
ka wale ɲumandɔn
musow ka fo
ka bonyaɲa sɔrɔ musow ta bɛ yaki
walekɛ
musow
ka fa
ni fama
bonyaɲa sɔrɔ.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de l'émission Nouvelle d'ici et d'ailleurs qui vous fait voyager tous les mois sur Radio Grand Ciel. Christophe Jubien pour interviewer aujourd'hui le père Didier Henry. On s'est vu, père Henry, il y a déjà quelques temps pour évoquer un voyage en Iran, un voyage tout à fait splendide que vous avez fait dernièrement. Aujourd'hui, nous allons parler d'Haïti. Vous vous êtes rendu, je crois, pour la troisième fois, fin janvier jusqu'au 12 février. Vous le savez, évidemment, Haïti a été victime en 2010 d'un terrible tremblement de terre qui a fait combien de morts, rappelez-nous, père Henri?
Oh, presque 250 000 morts en 32 secondes.
En 32 secondes.
Oui.
C'est absolument terrifiant.
Oui, parce qu'aujourd'hui encore, il y a des restes, il y a des dégâts, et ils ont fait un mémorial qui est sur une route très passagère, on s'y arrête, c'est plein, c'est beau, c'est... mais on sait que là, il y a 200 000 personnes qui sont enterrées à même dans la montagne. Ça marque.
On va faire un peu de géographie, parce que Haïti, c'est pas la contraction de Hawaï et Tahiti, pas du tout.
Et là.
C'est malheureusement une île frappée très souvent par le malheur, qui se trouve pourtant dans un cadre paradisiaque, qui est les Caraïbes, c'est ça?
Ben oui, la mer des Caraïbes, c'est très beau, hein. Vous pouvez penser à la Martinique, la Guadeloupe, toutes les îles que vous connaissez, une des plus célèbres devenues grâce à Johnny Hallyday et Saint-Martin. Mais il y a aussi Cuba, où beaucoup y vont. Et puis il y a la Havane et sa musique et plein de choses. Mais Haïti, à côté, il y a la République Dominicaine qui, elle, s'en sort à peu près. Cette île qui avait été divisée en deux avec les Anglais, Hollandais et puis les Français, et Haïti, normalement libre depuis 1802, et qui est pratiquement le pays le plus pauvre, ou l'un des pays les plus pauvres du monde, où il n'y a plus rien.
Ouais. Avant 1802, c'était une possession...
Alors ça a été anglais, je crois, ça a été français, ça a fini par rester français, et puis au moment de l'indépendance, avec Toussaint Louverture, qui... entre parenthèses, a été pratiquement assassiné en France sous Napoléon, puisqu'il était au château de là-haut dans le Jura et qu'il est mort de froid. Vous imaginez un Haïtien qu'on laisse dans un château en 1802, il a fini par mourir, le pauvre. Et la France a rendu son corps. J'ai découvert ça, qu'il y a aussi que le corps il est retourné dans son pays. Mais un pays qui se reconstruit. C'est ce qui m'a marqué, puisque c'est la troisième fois que j'y vais. En 2012, tout était par terre, et il y avait probablement encore des corps sous les gravats. En 2014 ou 2015, c'était déblayé. Et là, j'ai vu, avec déjà une partie, en particulier l'hôpital de Port-au-Prince, grâce à la Caritas allemande qui était reconstruit, qui fonctionne très bien. Et puis aujourd'hui, tout est déblayé et les reconstructions, y compris, j'allais dire, des bâtiments officiels, est en bonne voie. Il y a que finalement le palais présidentiel qui est toujours par terre. Bon, le président habite dans un autre endroit. Et puis mais déblayé. Donc il y a une belle pelouse qui attend la reconstruction. Et la cathédrale, la magnifique cathédrale, une des plus belles des Caraïbes, qui est toujours elle aussi par terre. Et je disais à l'archevêque, quand je l'ai rencontré, Félix, je sais plus comment il s'appelle, Max Félix, que finalement les ruines sont tellement belles qu'il y a une cathédrale provisoire qui est très grande juste à côté. Je crois qu'on pourrait faire quelque chose. Ouais. Mais bon, je suis pas de ce grand spécialiste de la mise en valeur de ruines, mais il y en a d'autres qui, depuis les Romains, ont fait mieux que moi. Ouais.
Alors avant le tremblement de terre, avant 2010, le pays était déjà pauvre. Hein. C'est un pays qui structurellement, on va dire, est confronté et atteint par la pauvreté.
Le pays est pauvre parce que c'est impressionnant, ces collines, ça peut être verdoyant, il n'y a plus d'arbres. Je l'avais déjà dit à d'autres interviews, il n'y a pas d'arbres, ou très peu. Il y a une forêt, la forêt des pins du côté d'Oriani où je suis allé, qui commence elle aussi à être coupée illégalement par des gens qui ont besoin de charbon de bois, mais c'est une catastrophe. Parce qu'on sait que quand il pleut, et là-bas quand il pleut, c'est un peu comme chez nous en ce moment, les robinets sont ouverts à 200% et la terre La terre descend en bas, et puis ben, il reste que des collines où il n'y a plus rien. Il y a rien ne pousse, ou quelques petites végétations, certes, mais qui ne peuvent pas protéger. Pourtant, il y a de l'eau. J'ai vu, c'est assez impressionnant d'ailleurs, j'ai vu des montagnes en allant à Oriani, des montagnes qui suintent l'eau. C'est-à-dire que l'eau coule tout à flanc de montagne. Si on pouvait la récupérer ou la canaliser, mais il n'y a pas de moyens. Il y a très peu de moyens.
Et c'est, en c'est ville, le moment de se rappeler que les catastrophes écologiques, ces coupes d'arbres entraînent souvent des catastrophes humanitaires.
Eh ben oui. Hier soir, j'étais dans une famille où l'enfant était tout content de manger du Nutella. J'ai dit, mais c'est une catastrophe. D'abord, c'est pas bon pour la santé.
Très mauvais.
Et puis, c'est très mauvais pour la planète. Ah bon? Eh ben, aujourd'hui, en 2018, même sur ma paroisse, j'ai des gens qui ne comprennent pas que bouffer des cochonneries, c'est pas bon pour eux et c'est pas bon pour la planète, mais cause toujours. Après, on dira si j'avais su. Ouais.
Alors, vous êtes invité en Haïti, donc c'est la troisième invitation, oui, par les Sœurs de Saint-Paul, car vous ne voyagez pas, évidemment, comme ça,
pour le
plaisir. Hein.
Je ne suis pas un touriste bête qui va s'allonger sur des plages, même à l'autre bout du monde, ou à Tahiti ou à Phuket, et puis qui ne voit rien du pays en disant « je suis allé dans le machin ». Non, moi, je vais à la rencontre des personnes, et les Sœurs de Saint-Paul, c'est génial, puisqu'elles sont dans plus de 30 pays. Ça serait bien qu'on en parle plus souvent des Sœurs de Saint-Paul, parce qu'elles font un travail extraordinaire.
Alors, et... leur travail, la nature de leur travail, c'est quoi?
La nature de leur travail, elle s'occupe d'un petit dispensaire ou d'un ou deux dispensaires, mais c'est surtout l'éducation, l'école. Je crois que j'ai fait le calcul, il y a presque 5000 enfants qui sont dans les écoles des Sœurs de Saint-Paul. Sachant que quand je suis allé la dernière fois, l'école était toujours provisoire, puisqu'on avait mis des bâtiments en bois qui ont finalement tenu. J'avais toujours peur d'un autre tremblement de terre qui, là, faisait que ça s'écroulait et tout. Mais elles sont attaquées par les termites. Les structures en bois. Et grâce à la Corée du Sud, l'école, en particulier celle de Port-au-Prince, a été reconstruite avec des bâtiments superbes, solides. J'ai posé la question à la directrice. Oui, mais... prochain tremblement de terre. Ben oui, mais ils ont fait maintenant des constructions, on va dire antisismiques, et ils ont séparé les blocs. Ça se touche, mais c'est séparé. C'est-à-dire que s'il y en a un qui s'écroule, ne va pas forcément entraîner les autres, ou peut justement faire que tout tient. Et c'est très intelligent. Alors évidemment, je suis arrivé au moment du carnaval. Ah, je vous dis pas l'ambiance.
Il y a un carnaval là-bas aussi.
Oui. Oh, ouais. Bah oui, c'est presque jour et nuit, en particulier dans les derniers jours où, alors là, on entend les bruits de la ville qui remontent, parce que les sœurs sont tout près de l'aéroport sur une hauteur, et puis il y a une ambiance extraordinaire dans les rues, mais dans les écoles, que ce soit la petite école d'Oriani, où cette année j'ai vu quand même que les progrès étaient considérables par rapport aussi à cette école. Il y a 3 ans, en 2015, quand j'y suis allé, c'était une école déjà en dur, mais avec très pauvre, si je veux dire. Et puis là, j'ai vu des instituteurs et le directeur enthousiastes de participer. Avec un petit bémol, c'est que j'ai vu des enfants que, heureusement que les sœurs leur donnent à manger le midi. Parce que des enfants qui font 2 heures, qui arrivent pour l'école, qui commencent à 7 heures du matin, qui font 1 heure ou 1 heure et demie de marche, le ventre vide, et qui repartent peut-être à 14 heures, le ventre vide, si on ne leur donne pas à manger. Eh bien, dans la cour, à côté du dispensaire d'Oriani, il y a des grandes gamelles de riz qui sont préparées avec un peu de sauce. Et puis, ben, les enfants repartent au moins avec... certains enfants n'ont même pas la gamelle alors ils ont un sac en plastique ou alors un seau en plastique, et puis ben on met le riz là, mais ils mangent. Oui. Il y a quelque chose. Bon, ils mangent avec les mains, c'est pas grave, mais j'ai vu ces enfants, oui. Alors évidemment, ça marque un petit peu, parce que quand on est dans Port-au-Prince, c'est la ville, on peut très bien avoir les commerces comme à Chartres, et puis à 1 kilomètre se retrouver au Moyen-Âge. Oui. Avec des détritus au milieu de la vie parce que de la rue parce que les éboueurs ne passent pas, et puis une circulation épouvantable. Dans un autre quartier, tout va bien parce que le maire local fait de la propreté de sa ville une priorité. C'est le quartier où habitent les sœurs. Et puis c'est vraiment plein de contrastes.
Ouais. J'ouvre une petite parenthèse parce que tout à l'heure vous avez expliquait que la Corée du Sud venait en aide à Haïti, et on peut que s'en féliciter, mais que fait la France? Est-ce qu'on le sait?
Oh, je pense qu'elle doit faire quelque chose. J'espère. J'ai pas, parce que j'ai vu sur la plaque.
On l'espère, en tout cas. Hein.
J'ai vu la plaque sur la maison sur l'école que la construction avait été en partie grâce à la Corée. Parce qu'il y a beaucoup de sœurs de Saint-Paul en Corée. Et puis, bon, c'est normal. J'espère que la France participe, pas uniquement à travers les ONG, mais vous savez, la France, même, j'allais dire, en haut niveau politique, quel qu'il soit, de droite, de gauche, du centre, de l'est, de l'ouest, on donne de la main droite et on reprend de la main gauche.
Oui.
Parce que la France ne s'est pas donnée gratuitement. Non.
De quoi vivent finalement les Haïtiens? Vous m'avez dit avant, lorsqu'on préparait l'émission, que l'économie redémarre un peu. Elle est faite de quoi, cette économie, finalement?
Eh bien, si je dis l'agriculture... C'est assez impressionnant parce que il y a plein de zones, non pas désertiques, mais où la terre est très abîmée. Mais sur les marchés, on voit plein de produits, des produits frais. Le problème, c'est les transports et les communications. Pour aller à Oriani, qui est à 250 km de Port-au-Prince, on met 5h30. Puis encore, c'est le chauffeur par moment essayait d'aller à 30 ou 40 km heure ou 50 km heure. Bon, on est secoué dans tous les sens. Ça, c'est très pratique, c'est bien. Mais c'est la petite économie de débrouille, si je puis dire. Bon, il y a une économie générale, il y a quand même des usines. Alors, des usines à Port-au-Prince, il y en a, mais les t-shirts que nous achetons, je ne dis pas que c'est des usines françaises, mais des usines internationales qui sont là, un petit peu comme au Bangladesh ou en Afrique ou au Pakistan, et ils sont payés 3 euros par jour. Puis nous, on achète le t-shirt 5 à 10 euros parfois, puisque vous savez que même si le t-shirt ne vaut rien, on met un nom d'une marque et ça passe, bien que la législation internationale l'interdise. Mais bon, où ça se contourne. Et puis, il y a plein de débrouilles. Je n'ai pas vu... Est-ce que j'ai vu de la... Oui, il y a de la pauvreté, très grande pauvreté. Est-ce que j'ai vu de la misère? Je ne crois pas. Je n'ai pas vu de gens affamés. On mange rien ou peu. Mais c'est un pays où, dans la montagne, et là aussi, on se baisse pas, mais on lève la main pour cueillir les avocats. Il y en a partout. Et puis, il y a l'arbre à pain qui donne à manger. Il y a plein. La nature est très nourricière. Après, c'est le problème des communications, de la mise en valeur des ressources c'est peut-être l'eau qui manque, mais je vous dis, l'eau existe. Elle est même pas dedans, elle est même pas dessous, elle est là, à flanc de montagne. Mais bon, c'est le problème de l'économie, parce que l'archevêque Max Leroy, il vient d'arriver, il est comme l'archevêque de Paris, il est tout neuf, il est arrivé au mois de janvier, mais le nonce apostolique, à une messe à laquelle j'assistais, puis ouais, il y a eu un symposium de la vie religieuse, j'ai assisté à 1000 religieux religieuses dans un même endroit, c'est assez impressionnant.
1000 religieuses, ça fait haïtiens.
ça fait rêver, oui, à 95 ou 16% haïtiens. Et puis le nonce apostolique dénonçant à cette messe la corruption et la violence. Un prêtre a été assassiné au mois de décembre et ça pose des problèmes. Le nouveau président il a été élu démocratiquement, mais pour les Haïtiens, il n'est plus tout à fait ce qu'il devrait être. Alors ça commence à recréer des problèmes politiques dont l'Haïti n'a pas besoin.
Oui, rappelons l'histoire politique d'Haïti qui a été sous la coupe du sinistre Duvalier et de ses tontons Macoutes pendant de nombreuses années.
Les tontons Macoutes et autres. Oui, non, mais c'est un pays qui a tous les malheurs du monde, politique, économique, alors religieux, on pourrait presque dire religieux, aujourd'hui, il y a une secte qui se crée tous les jours. Il y a des noms, l'église de la reconstruction du tabernacle, l'église du rocher, l'église de je sais pas trop quoi. C'est une catastrophe.
Ce sont des sectes évangéliques.
Et ça n'empêche pas que, Dieu sait que j'aime Haïti et les Haïtiens. Donc ça n'empêche pas nos frères catholiques d'aller par exemple, l'après-midi dans un temple qui n'est pas forcément chrétien. Et puis le matin ayant été à la messe catholique,
Oui. Ah oui, c'est le pays aussi, le berceau du vaudou.
C'est le berceau du vaudou. Et là, attention, c'est une religion particulière, traditionnelle, qui n'est pas à mettre au même plan que les sectes.
Mais c'est quoi alors pas exactement le vaudou alors, c'est,
oula.
C'est un culte...
Nos auditeurs vont aller voir dans Wikipédia, c'est ça qu'on dit, c'est machin qui permet aux élèves d'avoir des bonnes réponses sans rien faire.
Ou des mauvaises parfois.
Oui, en plus, c'est vrai. Mais, entre parenthèses, Internet fonctionne très bien en Haïti, avec un petit problème. J'écoutais régulièrement le journal de France 2. Au bout de 4 ou 5 jours, ou 6 jours, il y avait marqué vous n'avez plus accès à ce service, Haïti n'ayant pas de contrat avec je sais pas quoi, enfin vous savez tous ces machins. Je pense que c'est dégoûtant, pour pas dire un autre mot, parce que la France peut aussi permettre à ses ressortissants d'avoir des nouvelles du pays, mais aussi aux Haïtiens de s'informer des trucs internationaux sans être obligés de payer. Je rappelle que les redevances, etc., et vu les bénéfices de tous nos médias et autres, ce pays est pauvre. Ouais. Donc, au bout d'un moment, je n'avais pratiquement plus d'informations, si ce n'est que par ceux de mes paroissiens qui me donnaient des nouvelles, y compris. Oh, bah, c'est rigolo, tiens, entre parenthèses, c'est là-bas que j'ai appris la nomination de Monseigneur Cristori. Puisque nous avons des prêtres haïtiens, je suis allé voir le responsable de Voluntas Dei, d'où dépendent nos frères haïtiens, et puis il me dit félicitations. Félicitations de quoi? Il me dit, bah, vous avez un nouvel évêque. Et puis, alors c'est lui qui m'a montré sur son smartphone, parce qu'ils en ont aussi, moi j'en ai pas. Et là, j'ai envoyé un petit message en disant félicitations. Et puis, c'est quand même bien pratique, hein. Mais je suis allergique à tous ces trucs-là, mais c'est quand même bien pratique.
C'est quand même bien pratique. Ouais. C'est le moment de rappeler qu'en fait, Haïti, donc, il y a d'un pays de langue française, c'est ça?
Oui.
Dans la Caraïbe, il y a un pays de culture aussi, quand même, finalement,
oui.
En partie française.
Oui, hein. Oui. L'école chez les sœurs est en français. Dans d'autres, je suis allé aussi dans la cité à l'école Saint-Alphonse avec l'association SOS Enfants que quand j'étais parisien, on a créé avec d'autres personnes il y a 40 ans. Ah oui, ça nous rajeunit. Et puis, ben, c'est pareil. Là, c'est en français. Et l'école qui est à côté qui vient de se construire des sœurs de Saint-Joseph de Cluny dans la même cité Soleil, qui est un peu les quartiers nord ou difficiles, mais quand on est là-dedans, on n'a pas peur parce que non, on sent que justement le fait de ne pas faire du tourisme. J'y vais pas pour faire du tourisme, je vous l'ai dit, mais quand je rentre dans ce quartier accompagné par quelqu'un qui vit sur place et qui donne de sa vie sur place, on voit bien que celui qui vient n'est pas un touriste. Donc je ressens aucun... Bon, certes, je me suis pas promené le soir, à la nuit couchée, dans les rues, c'est idiot. Faut pas non plus jouer avec le feu. Mais dans la journée... Elle n'est pas forcément bien loin, mais il n'y a pas de danger particulier.
C'est une violence qui est...
Il y a beaucoup de violence quand même.
Qui est le fruit, enfin, je veux dire, la fille de la pauvreté, c'est
oui.
Ça
son... Oui, oui, ouais. Oui, oui. Bah, comme disait le saint Jean-Paul II, la pauvreté fait le nid du terrorisme. Ce sont les mots de Jean-Paul II. Alors, il n'y a pas de terrorisme en Haïti, mais il y a beaucoup, beaucoup de violence à cause de ces disparités de... Et cette immense, cette pauvreté qui nous saute aux yeux, avec, je confirme quand même, cette avancée économique qui permet à des enfants d'aller à l'école. J'en ai deux sous les yeux que j'aime beaucoup. Aubriana, une petite fille qui probablement enfin a trouvé en France une marraine, qui permet d'avoir à 20 euros par mois d'avoir de l'école et d'être pour...
Est-ce qu'on peut s'arrêter là-dessus?
Oui.
Parce que ça, ce sont les sœurs de Saint-Paul qui mettent en place un...
Oui.
Et comment ça fonctionne alors?
Eh bien, elles ont une liste d'enfants parce que c'est pas parce que c'est payant l'école Saint-Paul en Haïti qu'elles n'accueillent pas des enfants qui ne peuvent pas payer. c'est aussi leur mission. Donc, et elles s'arrangent pour que y ait des parrains, marraines, qui prennent en charge la scolarité. Donc, c'est à peu près 20 euros par mois. Et cet enfant, je vois Aubriana qui pleurait de ne pas pouvoir aller à l'école. Et puis, j'en ai parlé à quelqu'un qui, je crois, le parrainage, j'espère, c'est fait. Et puis, mais qu'est-ce que c'est 20 euros chez nous quand nos gamins dépensent le double avec leur portable qui ne sert à rien et des ordinateurs dont ils s'en servent pas forcément pour la bonne chose. Ouais. Et puis, il y a Woodlof aussi. Je voudrais reparler de Woodlof. Ce petit garçon, il y a 6 ans, je l'avais présenté, qu'il a eu le bras coupé avec une pierre au moment du tremblement de terre. Oui. Et j'ai passé mon temps à le chercher. J'arrive dans l'école, je dis à la sœur, mais il est où? Si, vous allez le voir. Puis d'un seul coup, j'arrive dans sa classe. Ben, il a 10 ans maintenant. Et 10 ans. Et alors, je l'ai vu, mais tout de suite, il m'a reconnu. Et c'est rigolo parce qu'à chaque fois, il me fait le coup. La deuxième fois que je vais dans l'école, c'était la fête du carnaval. Je cherchais, mais ils étaient tous déguisés et tous avec des masques, moi compris. Et à un moment, je dis, mais il est où? Il est où? C'est lui qui m'a sauté dessus. D'un seul coup, blam, il m'en serre avec ses bras, avec son bras. Et j'ai dit, ah, mais t'es là. Mais voilà. Et un petit gamin qui pète la vie. Alors, il n'a toujours pas de prothèse, mais il en aura une un jour parce que là, il grandit, ça ne sert à rien de gaspiller. Et la sœur me dit, vous savez, avec son moignon, il sait bien se défendre.
Ouais. Bon. Nous-mêmes, donc là, ici, dans le diocèse de Chartres, on peut parrainer un enfant.
Ah oui, je crois que là, allez voir sœur Monique François à la maison mère et qui vous donnera sans doute toutes les coordonnées au niveau du contact. Je pourrais vous le donner. Il y a peut-être sœur Paul en Haïti, mais vaut mieux peut-être demander directement à Chartres.
Donc la maison mère se situe
Rue Saint-Jacques
à Chartres.
À Chartres, ouais. Là. Et la supérieure provinciale connaît. Et ça, c'est important. Et bah, s'il pouvait y avoir, suite à cette émission, 3 ou 4 enfants qui sont parrainés c'est un engagement de 3, 4, 5 ans, ça dépend. Et puis peut-être plus. Mais certainement pas pour les faire venir en France. Pour que là-bas, avec une éducation, ils puissent, quand ils sont arrivés au brevet et peut-être au bac, ils puissent travailler aussi pour le pays.
Il y a une élite intellectuelle quand même,
oui.
Qui existe, hein.
Bah oui, je dirais.
Il y a des universités, il y a des...
Oui. Et puis il y a pas que les sœurs de Saint-Paul qui s'occupent de l'éducation. Il y a aussi plein de. Il y a aussi l'État qui fait quand même un peu son travail. Et c'est les moyens qui manquent, mais avec le peu qu'ils font, ils se débrouillent pas trop mal. Et je crois que si j'osais le dire, mais je crois que j'ose, je vais oser parce que on mettrait un troisième de chez nous et un troisième de là-bas pour une dictée. Je suis sûr que c'est là-bas qu'ils gagnent.
Ouais.
Ben oui.
C'est une éducation un peu à l'ancienne, quoi.
C'est une éducation peut-être à l'ancienne, oui, mais ça fonctionne.
Plutôt positif, hein.
Ça fonctionne, ouais. Parce que les enfants travaillent. Et les enfants, dans les villages, dans les plus reculés, je l'ai pas vu cette année, mais je l'avais vu en Afrique, des enfants qui se mettent à l'extérieur parce qu'il n'y a pas les moyens, mais ils entendent ce qu'ils disent et ils apprennent à lire et à écrire par le contact des autres. Chez nous, on se réjouit qu'ils sont en vacances, qu'il n'y ait que 146 jours d'école par an en France, sur 360.
Il y a là-bas un fort désir d'apprendre.
Et là-bas, il y a 186 jours d'école.
Ouais.
Donc 40 jours de plus qu'en France. Et désir d'apprendre, oui. Et ça se voit, ça s'entend, ça se... Et il y a l'uniforme. D'ailleurs, je me suis arrêté à la Guadeloupe. Il y a l'uniforme à Guadeloupe, à la Martinique. Il y a l'uniforme. Il y a l'uniforme dans nos départements d'outre-mer. Et on râle parce qu'on voudrait le mettre chez nous en France. Et alors? Non, mais c'est pas possible.
Voilà. Si Monsieur Blanquer nous écoute, on ne sait jamais.
Oui, ben. Ah oui, non, mais il se débrouille pas trop mal. Je vais lui donner des conseils, mais vous savez, c'est comme Monsieur le Curé, ça cause et cause toujours.
on arrive au terme de cette émission. Père Henri, juste, est-ce que vous êtes confiant dans l'avenir d'Haïti? Est-ce que vous êtes.
Oui, mais il ne faut pas le laisser tout seul.
Oui.
Parce que c'est prévu par les météorologistes. Il paraît qu'au mois de septembre, il y aurait une dizaine de cyclones et au moins 3 très violents. Bon, ben, si ça passe sur Haïti, c'est foutu. Faudra encore recommencer. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que de temps en temps, ça passe dans les pays qui ont les moyens, comme, c'est dommage, mais Saint-Martin et l'autre, Saint-Barthélemy, ben, et Dame Nature commence à se fâcher sérieusement. Mais à qui la faute? Certainement pas au bon Dieu.
Merci beaucoup, Père Henri.
Merci.
Noël, c'est Noël, un petit bébé, tout nu dans la crèche et couché.
Noël, c'est Noël, ce tout petit bébé, c'est Jésus, le Sauveur qui est né. Glory, glory, glory. Alléluia, alléluia.
Glory, 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 alléluia, alléluia,
Soge kanyi afiri bolola kayala.
Oso kafo,
ka wale nyumandan.
Oso kafo,
ka ubonya dunya so. Kono kanyi afiri jirila kayala.